avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.
Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio à Bordeaux par exemple sur 106.00 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec les graves de verre dans le Bordelais, la nouvelle appellation Bourgogne Côte d'Or, le gin version musique, vous verrez ça tout à l'heure, et puis le Vino Quiz pour gagner un très beau cadeau en jouant sur invinoradio.tv. À mes côtés, Hélène Piau, Philippe Forbach, Bernard Burchi et Gérard Muto. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour. Bonjour.
Pour commencer cette émission, Invino sur Radio retrouve Hélène Piau, chef de rubrique au magazine Régal, avec un nouvel invité par téléphone, Patrick Moreau. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Alors,
bonjour.
Vous avez passé votre vie à travailler à Limoux, au sein de la maison en tech, ou vous avez fait d'autres choses avant?
Pas complètement, non. À Limoux, pas seulement. J'ai travaillé un petit peu à Carcassonne également.
Ça, c'est la grande exportation, moi.
Pardon ?
C'est la grande exportation, Limoux-Carcassonne.
Oui, c'est ça. Il y a une trentaine de kilomètres d'écart.
Hélène.
Alors, je me suis laissé dire que vous vous étiez égaré du côté de Reims, quand même, pour faire votre fac d'œnologie.
C'est ça, oui. Oui, j'ai fait mon diplôme à Reims, au pays des bulles. Voilà.
Vous avez pris votre passeport à l'époque, non ? Parce qu'apparemment, ça a l'air compliqué pour vous faire bouger.
Remarquez, la région est très belle.
Non, j'ai profité des études pour bouger, et puis après, les aléas de la vie font qu'on revient aux sources. Bon, il y a le soleil qui nous a fait revenir aux sources, et puis... Il y a d'autres choses aussi.
Alors, il faut dire que vous vivez au paradis, du côté de Limoux, route de Carcassonne. Rien que l'adresse fait rêver.
On y est.
Route de Carcassonne à Limoux, dans l'Aude. Moi, je signe tout de suite. Hein. Donc, il s'agit de la maison Antech, dont vous êtes le directeur technique. Pour situer la maison Antech, c'est une maison qui a 6 générations, qui est née à la fin du 19e. La patronne actuelle est Françoise Antech-Gazeau, donc la 6e génération, qui a rejoint son père et son oncle en 1987. Et alors, les vins, c'est vous, c'est elle? Racontez-nous.
Alors, les vins, c'est rarement un projet seul. C'est souvent un projet collaboratif. À l'origine, c'était Monsieur Antechper et leur oncle qui ont démarré. Moi, j'ai pris la suite avec Françoise. Et l'élaboration, c'est vraiment quelque chose de collectif. On travaille de concert. Pour donner les tendances et les nuances sur toutes nos cuvées. Elle a une vision toute commerciale et puis assez pétillante du produit. Et puis moi, j'essaie de le mettre en musique au niveau de la cave. Hein, voilà.
Alors, une vision pétillante, ça tombe bien, parce que vous faites une quinzaine de vins, il y en a 14 qui sont pétillants. Donc,
oui,
jusque-là, on est raccord.
C'est ça.
Et alors, pourquoi s'il en manque un?
Ah ben, il y a un chardonnay, je ne sais pas, racontez-moi.
Il y a un chardonnay,
qu'est-ce
oui.
qui vous a pris? Il n'y avait plus de bulles en magasin?
Non, mais c'est vrai que le terroir de Limoux est assez particulier, puisqu'on est sur un climat de transition entre Méditerranée et Océanique. Et on a des vins comme le chardonnay, comme le pinot, comme le chenin, qui se plaisent bien sur nos terroirs. Et on a des terroirs un peu d'altitude, et avec beaucoup de fraîcheur. Et on retrouve des consonances qu'on n'a pas dans le secteur méditerranéen et qui plaisent beaucoup. Dans
combien de bouteilles produites chaque année au total?
On fait entre 8 et 900 000 bouteilles, essentiellement de vin effervescent.
Hélène?
Bouteilles que vous exportez en plus dans 30 pays, donc vous êtes de fiers ambassadeurs de nos belles bulles.
Oui, c'est ça, oui. Une trentaine de pays, un peu partout dans le monde.
Bon, on espère que vous en expédiez aussi en Chine, ça va peut-être les guérir, on ne sait pas.
Un petit peu.
Moi, je suis sûre que le vin, ça guérit tout. Avec modération,
oui.
Alain,
oui,
avec modération, je promets.
Modérée.
Voilà, je promets avec modération.
Toujours avec modération.
Alors, vous nous parliez de vos vignes d'altitude. Je crois savoir que vous avez d'ailleurs des projets en altitude. Vous faites beaucoup d'expériences à 400 mètres d'altitude.
Oui, c'est ça. On a un domaine viticole qui a été reconstitué il y a assez peu. Et on a un vignoble qui est sur un terroir entre 300 et 400 mètres d'altitude. Donc, avec une influence assez océanique. puisqu'il est très vanté et l'altitude nous amène beaucoup de fraîcheur, notamment l'été. Ça permet de préserver pas mal les arômes de chardonnay, des chardonnays, des chenins, des pinots, des mosaques.
Mais vous avez déjà une quinzaine de cuvées, alors qu'est-ce que vous pouvez expérimenter de plus?
Alors, la montée de la bulle, la montée de la bulle de 0 à 400 mètres.
Non, on essaie de travailler sur des cuvées différentes lors de l'élaboration. Toutes nos cuvées sont séparées, nos chardonnays, nos chenins et les différents jus. Les jus d'extraction du raisin sont séparés et on travaille sur l'assemblage des différents jus, des différentes origines, ensuite pour préparer nos cuvées. Voilà.
Philippe Orbach,
il y a quelques semaines, il y a eu des inondations terribles. On a vu des images assez terrifiantes. Du secteur
dans l'Aude et dans les PO. Quoi.
Exactement, on pense à tous les vignerons qui ont été impactés. Est-ce que vous avez été touché par ça
et... Alors non, pas directement. Et les producteurs ici ont assez peu impacté directement. Il y a des vignes qui ont été recouvertes d'eau. Il y a eu des... Il y a eu quand même
des caves inondées aussi, je crois.
Quelques caves inondées.
Il y a des caves inondées, il y a des maisons.
Patrick, en parlant de caves et de conservation des bouteilles, côté bouchage, vous avez une solution magique ?
Eh oui, depuis peu, on a souhaité travailler avec une maison qui nous fait des bouchons techniques. C'est la maison Diam, qui nous propose une solution de bouchage avec des agglomérés. Cinq goûts de bouchon.
Oui, donc là, il n'y a pas de risque. Hélène Pio, alors pour terminer, le coup de cœur, parce que Patrick, il est sur les 15 cuvées, dont les 14 qui pétillent, vous avez choisi laquelle ?
J'ai tout goûté. Non, c'est pas vrai, mais je vous l'ai dit, ma sélection, ce sera la cuvée Héritage, puisque vous faites à la fois des créments de jeunes millésimes et des créments de millésimes plus anciens. Et la cuvée Héritage fait partie des jeunes millésimes, mais qu'on a plaisir à garder quand même 4-5 ans. Un jeune millésime, ça reste quand même pas si jeune que ça. Et c'est une très chouette cuvée parce que on est dans la rondeur, on n'est pas dans l'acidité, on est vraiment dans quelque chose d'assez doux, mais il y a de la personnalité quand même, bien sûr. Ça coûte moins de 15 euros et franchement, on se fait très plaisir.
Coup de cœur, merci beaucoup Hélène, merci également à vous Patrick. Une vidéo sur Radio retrouve Philippe Forbach, président de la sommellerie française, pour partir dans le Bordelais. L'heure est grave, Philippe.
Eh oui, elle est grave. Elle est véritablement grave, d'ailleurs. Oui. L'appellation grave de verre, c'est une appellation... Alors grave, c'est très connu, c'est le nom de la terre, finalement, ce sol graveleux particulier qu'on connaît plus du côté de Pessac-Léognan. Mais il y a également une autre appellation, donc, qui s'appelle grave de verre, qui est située dans le secteur de l'Entre-deux-Mers. C'est une enclave, donc quasiment au milieu du Bordelais, au nord-ouest de l'Entre-deux-Mers, face à Fronsac, pas loin de Saint-Émilion et de Libourne, donc sur des terrasses qui surplombent la Dordogne, dans cet endroit-là, avec des terroirs ou une composition graveleuse, puisque c'est le thème, même le nom partiel de cette appellation, à la fois graveleux, sableau-graveleux, et qui permettent de donner des vins à la fois rouges, mais également des blancs, assez intéressants, plutôt des vins souples, plutôt des vins fruités, en ce qui concerne les rouges, élaborés bien sûr à partir du Merlot pour beaucoup, mais également du Cabernet Sauvignon et d'un petit peu de Cabernet Franc. Et les blancs, traditionnellement, on trouvait des blancs, ce qui est assez original, des blancs moelleux dans cette appellation. Et élaborés à partir de Sauvignon, de Sémillon, un peu de Muscadelle, pas liquoreux, hein, juste moelleux.
Donc et ça, c'est marqué original. Sur l'étiquette, Philippe, ou on découvre quand on est avec ces huîtres ?
Ça apparaît maintenant parce qu'ils produisent des blancs secs aussi.
C'est important.
Donc, ils le précisent quand même pour le consommateur. C'est une très jolie région viticole, en plein cœur du Bordelais. C'est sur la route, en plus, entre Bordeaux et Libourne. Donc, on traverse ce terroir de Grave de Verre. On s'y arrête peut-être pas souvent parce qu'il y a une voie rapide entre les deux. Et finalement, on est attiré par Saint-Émilion d'un côté et par Bordeaux de l'autre.
Mais la région est sympa.
Si on prend le chemin de traverse, franchement, ça vaut la peine. Parce qu'il y a de très jolies propriétés, d'abord, de très jolis châteaux, de très jolies églises également. C'est vraiment l'Entre-deux-Mers, c'est un des plus beaux panoramas, franchement, hein, de l'ensemble du Bordelais. Même s'il n'y a pas les grands châteaux connus qui font rêver, etc., quand on se balade dans cette région, on est touché par une sorte de, d'émotion visuelle, d'émotion historique, culturelle qui est extrêmement forte. Et ça vaut vraiment la peine. Il y a plein de petits bistrots dans tous les villages quasiment du Tour qui sont souvent fréquentés en plus par les gens du cru. Donc c'est des gens qui sont plus exigeants parce qu'ils sont là régulièrement, c'est pas pour les touristes seulement.
Ou l'anglais qui passe dans le coin.
On peut vraiment s'y faire plaisir.
Si je suis très méchante, je dirais que c'est l'anti-Médoc. Alors je vais pas me faire des amis en Médoc, hein, mais en Médoc, on a parfois du mal à trouver un petit bistrot un peu sympa et des gens du cru pour vous adresser la parole sans vous dire « dis donc, toi t'es pas du coin, t'as pas un château, tu sors mais... ?» Et ben, dans l'entre-deux-verres...
Ils sont pas tous comme ça, mais on peut en avoir quelques-uns. Quelques noms peut-être de châtelains?
Non, je vais éviter.
Mais quelques noms en tout cas de châteaux, des propriétés qui valent la peine. Le château Lespard, par exemple, qui appartient à la famille Michel Gonnet, fait partie des gens assez connus de la région, qui produit un rouge sur une base de merlot, hein, avec la souplesse et le côté fruité que l'on aime, et qui, avec pour une des cuvées particulières, avec un élevage, alors pour le coup un peu médocain, c'est vrai, un peu boisé, un petit peu marqué, mais qui vieillit très bien. Et ça, c'est magnifique en cette saison. Là, si vous reste encore des retours de chasse, là, quelques civets ou quelques, juste même du canard, juste rôti, c'est vraiment merveilleux. Notre propriété, le château Ogaïa. Là, on est plutôt sur un assemblage Merlot Cabernet Sauvignon 50-50. Donc, une proportion plus basse de Merlot. La structure, du coup, du Cabernet Sauvignon est assez présente. L'élevage en fût aussi marque. Et on a un vin qui est vraiment plutôt un vin de garde.
D'accord.
Autant l'Espard dans sa cuvée même.
Et combien ça coûte une bonne bouteille, Philippe, dans cette région?
Finalement, c'est relativement accessible. Quand on évoque les grandes appellations dont on vient de parler, on est loin de ces prix-là. On peut se faire plaisir à partir de 10-15 euros sans aucun problème. Et la plupart des cuvées, même un peu prestige, dépassent rarement les 25 euros.
Mais ça, il faut le répéter, Philippe. La réputation parfois bordelaise est très chère. Oui, mais pas que.
Exactement. Ogaïa produit d'ailleurs également un blanc à part égale entre le Sauvignon et le Sémillon, qui est franchement très intéressant également. Une autre propriété, le château Tour de Guéron. C'est une toute petite propriété, ça fait moins d'un hectare, donc c'est une sorte de jardin.
C'est un grand garage.
C'est intéressant, oui. Là également, alors c'est 50% Merlot, et là c'est pas Cabernet Sauvignon, c'est du Cabernet Franc, qui est un cépage qui est effectivement souvent son aise du côté de la Dordogne et qui donne cette pointe de fraîcheur un petit peu, certes végétale au départ, mais très intéressante avec ses arômes de cerise, de poivre, etc. Il y a beaucoup de complexité, très intéressant. C'est un joli vin de garde également, une dizaine d'années sans aucun problème. Et là aussi, on est sur un prix qui avoisine à peu près une vingtaine d'euros. Ceux qui pourront un joli vin de Bordeaux de garde est quand même fort intéressant.
Oui, c'est quand même très raisonnable, quoi. Donc ça, c'est le bon plan de ce week-end. Merci beaucoup, Philippe Aubrac. Merci à tous. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas à Paris, place de la Madeleine, avec le Vino Quiz.
Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour à la cave, Nicolas à Paris, place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée avec Hélène Pio et le Vino Quiz, Hélène.
Oui, je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin. Et le vainqueur gagne un beau cadeau, le prochain numéro du magazine Planète Vin et Spiritueux. Alors, ce week-end, nous voulons savoir dans quelle maison de champagne Sébastien Brien s'épanouit-il aujourd'hui? Réponse A, le champagne Collet. B, le champagne bordelais, ou C, le champagne Jacquard. Pour répondre et gagner le prochain numéro du magazine Planète Vin et Spiritueux, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz, et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
Merci beaucoup Hélène. Invino Sud Radio retrouve Gérard Muto pour nous parler de gin. Voilà. Hélène qui est en pleine forme, là, c'est bien ça.
Non mais je
suis sur la tête. Ouais.
Je ne suis pas devenu critique de rock, rassurez-vous.
Dommage.
Pas encore. Je ne vais pas vous décortiquer la carrière de David Bowie, mais les paroles du génie en gin m'ont fait penser au génie du gin, dont le foisonnement des cuvées traduit un réel renouveau. Un petit retour en arrière. Dans les années 50, le gin était très prisé dans les bars des grands hôtels, avec le succès mondial du dry martini. Je parle sous contrôle de David Cobbold, qui n'est
de
pas loin,
David Bowie.
quelques décennies plus tard, l'ascension de la vodka et celle du rhum le relégua un peu au second rang. Et il a fallu entendre un peu les années 2000, oui, pour le voir renaître, notamment grâce au coup de pouce de l'agent 007. Vous vous souvenez? Dans Casino Royale, l'espion de sa précieuse majesté commande lors d'une mémorable partie de poker un Vesper. Ingrédient du cocktail, gin, vodka et un trait de lilé.
Et donc Gérard, qui était la James Bond Girl dans ce film? Parce que c'est bien le cocktail, mais la James Bond Girl, c'est sympa aussi, non?
Le nom de baptême...
C'est pas italienne d'ailleurs, c'était pas italienne.
Le nom de baptême du cocktail est un hommage à Vesper Lind, une James Bond Girl incarnée dans le film par Eva Green. car une fois que l'on a goûté Vesper, on a envie de rien d'autre.
Oh, très bien, Gérard.
Green, oui, comme les yeux
avec
des Green.
Bien sûr, bien sûr. Blue donc, eyes, green, c'est magnifique.
Historiquement, le gin est considéré comme une spécialité anglaise. Il aurait été introduit en Angleterre par le prince hollandais Guillaume d'Orange, devenu roi d'Angleterre. Les Britanniques ont alors codifié la recette de sa fabrication de façon assez souple, une eau de vie de grain aromatisée par les baies de genièvre et d'autres ingrédients. Le London Dry Gin pouvait damer le pion au sidecar et autres mixtures à base de cognac importé. Aujourd'hui, le gin est partout, partout dans le monde, et les micro-distilleries poussent comme des champignons. En France, des distillateurs avisés l'ont ajouté à leur carte avec bonheur. Ces distilleries doivent répondre à deux critères obligatoires pour sa fabrication, un degré d'alcool minimum de 37,5 et le goût des baies de genévrier qui doit être majoritaire. Ensuite, chacune d'entre elles peut se distinguer par son propre assemblage d'aromates, s'inspirant le plus souvent de recettes locales, remises au goût du jour pour créer des gins uniques. Alors les épices, coriandre, poivre, gingembre, cannelle, les fruits, en particulier les agrumes, les fleurs, angélique, gentiane, iris, les végétaux, réglisse, thym, romarin, tout ça peut être utilisé pour la fabrication de ces gins. L'atout du spiritueux, sa fraîcheur et sa tonicité, sans oublier la simplicité de la recette d'une gin tonique qui ne réclame que le jus d'un demi-citron et un tonique type Fever Tree, agrémenté d'un zeste d'agrumes, d'une rondelle de concombre ou d'une feuille de basilic selon les goûts.
Alors moi, si je peux me permettre, j'ai un tonique français que j'adore, ça s'appelle Archibald. Essayez de trouver ce truc-là.
Archibald.
C'est hyper bon.
Très dur à trouver, mais excellent.
Ça marche très très bien avec le gin. Franchement, c'est top.
Excellent.
Voilà. Et alors, dernière
nouveauté sortie des cartons des adeptes, je suis désolé d'y revenir, du Dry January, c'est déjà un peu ancien, le gin sans alcool. Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça. Chez Ceders, il s'agit d'une décoction, distillation de genièvre et de plantes d'Afrique du Sud à consommer avec un tonic premium, toujours, relevé de feuilles de menthe ou d'une tranche de concombre. Les Français ne sont pas en reste, ils viennent de lancer JNPR numéro 1 pour Juniper, premier spiritueux français sans alcool, naturel, distillé à base de baies de genévrier, de plantes, de fruits et d'épices. Mais mon slogan, pour continuer à paraphraser Bowie, reste « Gin Genie, let yourself go ». Laissez-vous aller au génie du gin, avec ou sans alcool. De préférence, moi, un peu avec alcool.
Attention, mais avec modération.
Et pour en citer quelques-uns, ils sont vraiment nombreux, les gins. Il y a toute une diversité.
À mon époque, il y avait le Gordon. Ça existe toujours, ça?
Ça existe toujours. Je ne l'ai pas mis dans ma liste. Je préfère citer plutôt...
bons gins.
The Botanist, qui est
excellent.
Qui est produit par la distillerie Bruichladdich sur l'île d'Isla. Une grande partie des botaniques, d'ailleurs, utilisées dans sa production proviennent de l'île. Il y a Star of Bombay, qui est un assemblage de 12 épices, avec notamment la bergamote de Sicile et les graines d'ambrette. Je citerai aussi Tancreten, excellent, qui provient toujours d'Écosse, comme le Hendrix, Monkey 47, et puis des gins français comme Jevine, qui est l'un des rares à être distillé à partir de raisins. Vraiment un ingrédient rarement utilisé pour le gin, avec 10 plantes et des épices qui rentrent dans sa composition, dont la fleur de vigne. Le gin de Salers aussi, qui bien sûr contient une part de gentiane non négligeable.
Et enfin.
Et enfin, le gin breton.
Ah oui, le gin breton, quoi.
Et oui, Éole on Orient.
Excellent. Merci beaucoup, Gérard Muto. Une vidéo sur Radio retrouve Bernard Burchi pour tout nous dire sur l'appellation Bourgogne-Côte d'Or. C'est nouveau, ça, Bernard, ou pas?
C'est la dernière appellation qui a été créée. D'ailleurs, un petit mot sur Côte d'Or, parce que je rappelle que ce département devait s'appeler, d'ailleurs, parce que les noms des départements devaient suivre des critères physiques et immuables. Donc les rivières ont été beaucoup mises à contribution.
Eh oui.
Et ils devaient s'appeler entre Saône et Seine.
Entre Saône et Seine.
Oui, parce que l'autre, le voisin, c'est Saône-et-Loire. Donc ici, il y a...
Waouh.
Mais il y a un député de la Constituante, André-Rémy Arnoux, qui a proposé Côte d'Or. Alors on ne sait pas comment est-ce qu'il a réussi ce coup de génie. Hein, donc si, peut-être pas en venant de Côte d'Orient, enfin en tout cas on n'en sait rien, mais enfin en tout cas c'est le seul département qui porte quand même un nom attrayant et qui ne suit pas vraiment les règles donc de la constituante. Et donc là, quand vous êtes sur la route célébrissime, donc l'ancienne route nationale 74 qui a maintenant été déclassée en départementale 974 qui longe les coteaux de la Côte de Nuit, de la Côte de Beaune. Alors d'un côté vous voyez Meursault, Puligny-Montrachet, Chassagne-Montrachet, un peu plus loin Clovougeot, mais de l'autre côté de la route, donc ici séparé par une seule route, ça s'appelle Bourgogne. Vous pouvez être sur le territoire de Meursault, dans la commune de Meursault, et ne vous appeler que Bourgogne. Néanmoins, les Bourgognes qui sont produits là ont un goût un peu différent. Et d'ailleurs, pendant longtemps, pour les amateurs, c'était une bonne affaire. D'ailleurs, l'exemple le plus important, c'est au Clovougeot. Puisqu'au Clovougeot, vous avez d'un côté le Clovougeot. Donc aujourd'hui, la bouteille vaut quand même 300 euros. Et de l'autre côté, de la route. Donc ça s'appelle Bourgogne.
Et il y a 15 mètres.
Vous en mettrez 3 caisses.
Un négociant comme Nick Laurent, d'ailleurs, a fait là-bas son Bourgogne numéro 1. Et évidemment qu'il y avait une vraie différence de goût. C'est pas Meursault, c'est pas Clovougeot. Mais le Clovougeot, même le bas lui-même, est souvent d'ailleurs un peu sous l'eau parce que c'est une route nationale, on n'avait pas le droit de la percer, alors que de l'autre côté, c'était parfaitement sain. Donc souvent, ce côté-là, meilleur d'ailleurs que. Alors, malheureusement, le tuyau que j'avais pendant longtemps est un peu troué maintenant par cette appellation qui s'appelle Bourgogne-Côte d'Or. Donc il y a aujourd'hui 200 hectares de rouge et 90 hectares de blanc. Le potentiel est un millier d'hectares et avec des contraintes qui sont quand même celles de l'autre côté, c'est-à-dire des densités de plantation de 9000 pieds à l'hectare. De l'autre côté, c'est plutôt 10 000 dans les grands crus. Des conditions de production un peu plus strictes. C'est une bande qui fait 65 km de long. Et 2 km de large, que vous pouvez d'ailleurs très bien voir. Au lieu de regarder les coteaux prestigieux, vous regardez de l'autre côté. Ça fait des très jolis vins. Alors maintenant, ils ont réussi quand même à faire classer cette partie-là, parce que, on ne le dit pas beaucoup, mais l'appellation Bourgogne-Bourgogne représente 50% des volumes de la Bourgogne.
C'est énorme.
C'est énorme.
Et à Bordeaux, Bernard, les Bordeaux dessus, ça
fait 66%, les deux tiers, en volume. Donc là, il y a autrefois, ils étaient à peine plus chers que les Bourgognes, puisque personne ne connaissait ce tuyau. On les achetait au prix des Bourgognes.
Bon
maintenant, avec ce petit coup de pouce, ils ont monté un peu de prix. Ça vaut une quinzaine d'euros. Une vingtaine, alors ça dépend où vous l'achetez, bien sûr. D'ailleurs, beaucoup de producteurs célèbres, comme Charlopin, qui fait des Gevrey Chambertin, a, évidemment, comme beaucoup de gens, des vignes de l'autre côté, qui s'appelaient Bourgogne.
Et il les vend combien ? Un peu plus cher.
Et donc là, c'est un peu plus cher. Là, c'est plutôt 22, 23, mais enfin, ça reste quand même une belle affaire. C'est évidemment en rouge le cépage Pinot Noir, en blanc le cépage Chardonnay, à Meursault, Sylvain Dussort. D'ailleurs, Charlopin et Dussort ont réussi à créer cette appellation, toute neuve et qui vaut la peine, qui permet de se sortir d'ailleurs de la masse des Bourgognes. Alors, le même décret d'ailleurs règle un petit problème dont on parle aujourd'hui un peu plus, ça vient de sortir, puisqu'on veut déclasser un certain nombre d'appellations de la Bourgogne, dans le serroir, en promouvoir d'autres. Comme les crus
du Beaujolais. Et c'est justifié tous ces changements, Bernard, selon vous, ou alors c'est des bidouilles ?
Le problème, c'est que la Bourgogne n'a jamais été délimitée.
Ah.
Elle n'a jamais été délimitée parce qu'en 1935-1936, les crus du Beaujolais étaient beaucoup plus chers. Un moulin à vent, un Juliena, était plus cher qu'un Gevrey Chambertin. Et donc toute cette partie-là n'a pas été délimitée parce que ça posait quand même quelques problèmes. Alors aujourd'hui, évidemment, le problème est inverse.
Un peu inversé,
et puis en plus. Je rappelle juste qu'un certain nombre de négociants se fournissent là allègrement pour faire des Bourgognes. Parce qu'aujourd'hui, un hectolitre en vrac d'un Julien d'Amoulin avancé, ça vaut 600 euros. Et quand il devient Bourgogne, il passe à 2000.
C'est intéressant.
Il y a une histoire de gros sous. Alors cette deuxième partie, la partie Bourgogne-Côte d'Or a été faite par un décret publié en 2017. Hein, donc ici, donc, mais en revanche, l'autre partie, donc on en reparlera plus tard.
Merci. Donc ça, c'est le bon plan. Merci beaucoup, Bernard Burchi. Merci également à vous, Hélène Pio, Gérard Muto et Philippe Forbach. Merci également à Angélina Charlotte qui ont préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr, invinoradio.tv ou notre page Facebook Invino. On se retrouve samedi prochain à 12h30 pour une émission spéciale. On sera en direct du Salon de l'Agriculture. Donc il y aura plein de producteurs, plein de cochons, plein de fromages. On va se régaler, notamment avec vous Philippe Forbach. D'ici là, excellent déjeuner. Restez à l'écoute de Sud Radio et surtout observez la plus grande des modérations.
Avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.